Infiltrée, une femme au stup. Overdose dans le 13e. 5 morts d'overdose dans la même semaine. La première étant celle du type shooté par sa femme et toujours dans le 13e arrondissement. Nous faisons le lien sans hésiter. Dans cette affaire, les jeunes qui vendaient à la dose n'ont probablement pas su faire la coupe. Non seulement ils ont dû se faire remonter les bretelles par leur chef, parce qu'en coupant si peu, ils ont perdu beaucoup d'argent, mais ils ont tué des toxicomanes en leur vendant une héroïne trop puissante. Nous concentrons nos forces sur le quartier chinois. Dans les années 90, les Chinois sont les maîtres du trafic d'héroïne, en provenance du Triangle d'Or et de l'Extrême-Orient. Comme je l'ai déjà dit, leurs petites mains sont laotiennes, vietnamiennes, cambodgiennes, etc. Il y a une autre filière, souvent tenue par les Turcs, qui vient de l'Afghanistan, à travers les Balkans, les pays de l'ex-Yougoslavie. L'héroïne afghane est brune et l'asiatique blanche. Les Turcs et les Chinois ne font jamais affaire ensemble, bien évidemment. L'un des morts par overdose venait de sortir de quelques mois de prison où il s'était sevré. La première chose qu'il avait faite, une fois libre, c'était d'aller se chercher une dose d'héro. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'au lieu d'avoir une héroïne pure à 10%, il se tapait un truc pur au moins à 60%. Sans compter que son corps était déshabitué. C'était la même héro que celle qui avait tué celui qui se faisait shooter par sa petite amie. On convoque à nouveau la petite amie du type mort dans une sanisette et elle finit par nous lâcher des informations qui nous permettent de repérer le dealer, un laotien. On tente un flag. Nous le surveillons, nous le filochons et nous finissons par le voir vendre des doses à un toxico. Nous interpellons le toxico un peu plus loin pour ne pas donner l'alerte et nous tombons à plusieurs sur le dealer qui tente de s'échapper et avale ses bonbonnes. Au début de son interrogatoire, il ne veut pas dire grand-chose, et c'est très compliqué. Nous marchons dans le brouillard, avant de comprendre qu'un autre dealer lui a volé son identité, lui-même ayant déjà été arrêté pour des affaires de stup. Je me retrouve avec un type en garde à vue à qui je dis « Ouais, t'es déjà tombé pour telle et telle affaire. » Et il me répond « Pas du tout, c'est pas moi. » On ne pige rien à son histoire. Quoi qu'il en soit, usurpation ou pas, c'est lui qui ne sait pas couper l'héroïne et c'est lui qui a vendu des produits vraiment trop puissants qui ont tué 5 personnes en une semaine et peut-être plus. Dans cette affaire, nous n'avions pas de tonton, juste les infos de la petite amie du premier toxicomore. C'est très compliqué d'infiltrer le milieu asiatique. Il est impossible de leur envoyer un infiltré qui n'est pas des leurs. On avait bien les zones d'achat, sur la dalle des Olympiades, derrière chez Tang. On avait la description du vendeur, mais elle ne menait pas loin, car avec un tuyau dans le genre « c'est un garçon, jeune et asiatique », on pouvait interpeller tout le 13e arrondissement. Après avoir compris que ça ne servait à rien de nier, le Laotien s'allonge un peu. Il nous dit acheter sa drogue dans un appartement tout en haut des tours de la Porte d'Ivry. Pour trouver des gens précis là-dedans, cela va être coton. On y fait une descente et on tombe sur une immense salle de jeu clandestine tout en haut de la tour. Il est 6h du matin, les gens ont fini de jouer. Le mec qui vendait de l'héro n'est plus là, on s'en doutait un peu. Mais on n'avait pas l'autorisation de débarquer entre 21h et 6h du matin. Il reste quelques putes, toutes asiatiques, qui traînassent en bâillant ou dorment sur les banquettes. Dans la salle de jeu, il y a quelques beaux jeux de mahjong. C'est d'une grande étrangeté, cette ambiance de Macao ou de Hong Kong en miniature dans ce vaste appartement moche, sans charme ni goût, surplombant Paris. Presque en face, les premiers clients viennent tranquillement acheter leur nem chez Tang. On trouve quand même une dizaine de grammes d'héroïne et on embarque les putes et leur mamassane, leur mère maquerelle. C'était un peu frustrant, cette affaire. On n'avait pas la téléphonie d'aujourd'hui. De nos jours, en examinant les portables, on peut réussir des enquêtes extraordinaires. L'examen du portable de la victime, par exemple, permet de commencer l'enquête avec beaucoup de pistes et d'informations. Là, on avait réussi à choper le mec qui vendait ses doses d'héroïne mortelles. Il nous avait envoyés vers cette salle de jeu. L'histoire se terminait trop vite. Il n'y a que dans les séries qu'on peut remonter vraiment jusqu'en haut de la pyramide des trafiquants. Il faudrait pouvoir enquêter jusqu'en Afghanistan, en Ouzbékistan ou dans les montagnes du Rif. On n'en a pas les moyens. On s'interrompt à un niveau qui peut paraître faible, surtout si on attrape le trafiquant au moment où il n'a plus beaucoup de marchandises. On peut décapiter une bonne partie d'une pyramide, même en trouvant très peu de produits, ce qui est difficile à concevoir pour le grand public, puisque c'est la quantité de produits saisis qui fait le buzz dans les médias et qui donne à la hiérarchie la joie trompeuse d'avoir fait du chiffre. Tomber le jour où il y a le kilo, c'est un coup de chance. C'est pour cela qu'on fait des coups d'achat en faisant de l'infiltration. Dans un coup d'achat, le dealer propose de la drogue au policier infiltré, qui joue le rôle de l'acheteur, et le soi-disant acheteur montre qu'il a de l'argent. Le dealer va donc essayer de lui en fournir le plus possible. Il y a des patrons qui ne vivent que pour l'instant de gloire médiatique, pour se faire briller auprès de leur hiérarchie. Nous étions sur une affaire pour laquelle on avait mis les suspects sur écoute. Après plusieurs jours d'écoute fastidieuse, on entend enfin notre principal suspect dire « Les ceintures seront livrées aujourd'hui ». Nous mettons tout en place pour filocher et observer. Le patron déboule alors dans notre bureau et tape sur la table. Vous interpellez aujourd'hui même. Vos conneries, ça suffit. On a interpellé. Trop tôt. On n'a eu que 500 grammes d'herbe. Et le patron a pété un câble en nous traitant d'abrutis. Il voulait faire du chiffre et espérait pouvoir annoncer une prise d'au moins 500 grammes d'héro ou de coke. Parce qu'il voulait du sensationnel, il nous a empêchés de faire un travail qui nous aurait menés beaucoup plus loin. Un chef de section de ce genre, si on lui dit qu'on a un tuyau épatant sur un type qui fait venir de la cam, son réflexe immédiat sera de demander « Combien ?»« Combien ?»« Ben, faut attendre, mon vieux. On n'en sait rien. On peut ne trouver que quelques kilos, mais arriver à démanteler toute une grosse structure de trafic, avec des dealers importants. On peut aussi arrêter un type avec une tonne de shit. Très bien. On aura coincé un conducteur de camion et débarrasser le marché de cette tonne. Et après ? C'est là où les journaux, et parfois notre hiérarchie, se trompent. Il vaut mieux trouver moins de produits, mais identifier une structure de revente et la mettre hors d'état de nuire. Avec la culture du chiffre, depuis les années 90, on se félicite si on arrête un mec et une grosse quantité de drogue. Or, le trafic de drogue est un problème désespérant. Un puits sans fond. Je ne crois pas qu'on puisse jamais se dire « C'est fini. L'année prochaine, on pourra arrêter la lutte contre les trafiquants. » Même si on légalisait le cannabis et que l'État créait une sorte de CEITA du cannabis, il y aura toujours des réseaux clandestins qui vendront moins cher et proposeront d'autres drogues. C'est exactement ce qui s'est passé au Canada.